Bienvenue dans Bistro Vélo. Voici le menu. Comme d'habitude, on perd pas de temps avec Sébastien Petit. On va commencer par des moules de Bouchot, la Vendée et ses moules de Bouchot. Et oui, il est Vendéen d'adoption, Strasbourgeois de naissance, une choucroute royale. C'est notre invité du jour. Et puis le Saint-Honoré en dessert. Saint-Honoré, vous savez peut-être pas, mais c'est une pâtisserie parisienne. Et l'année prochaine à Paris, il y aura des JO, Jeux Olympiques. C'est Thomas Voeckler qui est notre invité. Salut Thomas. Désolé pour le petit retard. On était en train de se connecter entre deux voyages. Tu étais hier en Vendée. Tu commentais pour nos confrères de France 3 le Tour de Vendée remporté par Arnaud Démare. Comment ça va, monsieur le sélectionneur?
Salut tout le monde, ça va très bien, merci Guillaume.
On a attaqué la première partie, j'ai marqué Voeckler, c'est Midas. Tu connais Midas? Tout ce qui touche, il le transforme en or. Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que je peux te toucher, Thomas Voeckler? C'est incroyable, cette série, avec encore le titre de champion d'Europe de Christophe Laporte. C'est quoi? Tu as un don?
Oh, non, c'est une belle série, bien sûr que c'est une belle série. C'est tout cumulé, vu comme ça, c'est flatteur. Mais moi, je retiens course après course, quoi. Ça a été un très beau championnat d'Europe, avec une grande équipe de France, un très grand Chris. Et puis après, oui, bien sûr, c'est plaisant. Je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas plaisir, le bilan, mais je suis plus attaché à l'état d'esprit, à la manière. Et quand après, il y a une belle médaille ou un titre, bien sûr que ça vient rehausser le truc. Mais l'état d'esprit est pour moi tout aussi important que le résultat final, en fin de compte.
On l'avait compris, posez vos questions hein, sur YouTube en direct à Thomas Voeckler, le sélectionneur. L'état d'esprit, c'est qui le fait? Sont les coureurs qui le font ou sont les sélectionneurs qui font l'état d'esprit?
C'est un ensemble de choses. Je pense que chacun peut avoir sa version. Après, moi, j'essaye. J'ai quelques idées. J'essaye de les mettre en place. Il y a une ambiance aussi, mais ça vient aussi d'un spectre plus large. Il faut intégrer le staff dans cet état d'esprit. Il faut les résultats. Ça compte aussi les résultats précédents, la dynamique, l'état d'esprit et les personnes qui composent l'équipe, que ce soit les coureurs ou le staff, mais en premier lieu les coureurs, évidemment, c'est la personnalité compte tout autant pour moi que le potentiel ou les caractéristiques techniques ou physiques des coureurs, quoi. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Et puis après, il faut réussir à donner le bon ton pour que ça soit pro sans pour autant coincer, et puis d'avoir des ambitions tout en ayant de l'humilité. Voilà, c'est après, c'est toujours facile de parler quand ça s'est bien passé. Mais ceci dit, il y a des fois où ça s'est pas bien passé. L'état d'esprit, on a pu faire des conneries, c'est vrai, moi le premier. Mais l'état d'esprit, j'ai jamais trouvé mauvais depuis que c'est. Enfin, en tout cas, c'est que des super moments.
On a revu la Marseillaise. Là, ils étaient tous au regard là-haut. Il y avait Arnaud Démare, il y avait des garçons que tu avais appelés la veille. Je pense Anthony Turgis, hein, qui était arrivé au dernier moment. Tu parlais du passé et de ce que tu as fait déjà avec ce groupe. J'ai l'impression que maintenant, effectivement. Quand tu en appelles un, bah, il vient tout de suite parce qu'il a envie de vivre cette aventure équipe de France. Il parle les coursiers entre eux, les Julien Bernard, tous ceux qui sont passés, les Valentin Madouas. Ils savent qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe.
En tout cas, ce qui est sûr, ce que je sais, c'est que moi, je passe des super moments avec eux. Je passe des fois des moments plus compliqués en amont quand je me triture l'esprit pour composer l'équipe et savoir comment on va courir, sachant que je peux me planter et que je n'ai certainement pas la science infuse. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je prends un pied pas possible. Voilà, c'est un peu ma récompense des semaines, des mois où je cogite. Quand on est sur zone, quoi, quand ça s'approche vraiment, c'est voilà, finaliser la sélection, être sur le terrain. Ouais, j'allais dire jouissif, c'est super prenant, quoi. Voilà, les gars, il y en a que je connaissais pas et j'ai l'impression de déjà les connaître quand ils arrivent, quoi.
Justement, tu disais quand je fais ma sélection, qu'est-ce que tu regardes quand tu fais la sélection? Qualité sportive, bien entendu, il faut des mecs capables de gagner. Et après, c'est quoi? C'est un agglomérat? On dit tiens, j'ai lui, on fait ça? Parce qu'après, il y a des négociations avec les équipes, j'imagine, c'est pas toujours facile.
Franchement, il n'y a pas. Excusez pour le petit bruit, hein. je suis à l'aéroport en train d'attendre mon vélo qui va sans doute pas tarder à tourner sur le tapis.
Te le fais
donc
pas
si
taper.
Vous entendez un message, voilà. Non, sincèrement, ça se passe très bien avec les équipes. J'ai jamais eu de problème. C'est arrivé une fois l'an dernier où une équipe n'a pas pu libérer un coureur, ce qui est priorité au point UCI. Mais sincèrement, les coureurs, ils sont contents de venir en équipe de France. Et heureusement, quoi, je serais choqué. Hein, ça m'est arrivé une fois qu'un coureur ne soit pas motivé. Je me suis dit, bon, heureusement qu'il me le dit, parce que si je l'avais pris, j'aurais fait une bonne connerie. Mais sinon, ouais, il y a vraiment, il y a aucun problème pour que les équipes mettent à disposition les coureurs. Ça, c'est, j'ai jamais rencontré aucun problème. Et ensuite, ben, il faut, ouais, j'essaye de tenir compte de plein de choses, de plein de choses. Bien sûr, allez, si on prend les choses générales, c'est les qualités physiques, le niveau du moment, la planification pour certains quand c'est un petit peu des coureurs qui sont pressentis depuis longtemps, l'opposition, le parcours évidemment, et puis le paysage cycliste à ce moment-là, parce que des fois 6 mois avant l'échéance, on parlait de Paris tout à l'heure sans doute, quand on se pointe 1 mois avant ou 3 semaines avance, le paysage de la concurrence peut avoir changé, quoi. Donc ouais, j'essaye de tenir compte de tout ça, et l'état d'esprit évidemment, il compte énormément. Alors après, il y a toujours des coureurs qui vont trouver injuste que je les appelle pas pour venir en équipe de France. En tout cas, la porte, elle est toujours ouverte. Je suis pas là pour faire plaisir. Je suis pas non plus buté. Donc voilà, je peux aussi faire des erreurs, mais j'essaye de croire en ce que je fais. Et puis en tout cas, les gars qui sont là, ils ont vraiment l'état d'esprit qui me plaît. Et c'est difficile à croire que ces mecs-là, pour la plupart, enfin pour tous, hein, sauf quand il y a plusieurs de la même équipe, qui soient adversaires le reste de l'année, parce que vraiment, ils n'ont pas gagné, ils n'ont rien à gagner au niveau financier en équipe de France. Ils ont juste la fierté de porter le maillot de l'équipe de France et d'avoir des souvenirs plein la tête quand ça rigole bien, quoi.
Il y a Herman qui demande est-ce que le sélectionneur est en lien justement avec les coureurs pour bah, calculer l'entraînement en fonction des pics de forme, des objectifs. Tu as le temps de savoir qui tu vas sélectionner assez longtemps à l'avance pour lui dire, bon voilà, toi, il va falloir que tu te prépares pour être au top de ta forme à ce
Chaque cas
moment-là.
est différent. Chaque cas est différent, parce que ça, je peux tenir ce discours avec un coureur qui, sur le papier, est indiscutable en sélection, en fonction du circuit. Mais je peux pas faire croire à un coureur soit en forme et que je suis pas sûr de le prendre. C'est pas évident de garantir à un coureur qui est pas un pilier vraiment incontestable de lui dire bah, soit en forme, je te prendrai. Et puis après, en fait, je lui demande juste, dans ces cas-là, je demande à 30 mecs de le préparer l'objectif. Et puis j'en prends que 8, quoi. Je peux pas fonctionner comme ça. Donc c'est au cas par cas. Ça peut arriver que je demande, voilà. Par contre, bien sûr que je me mêle pas de l'entraînement, parce que c'est pas mon job. Et puis je saurais pas faire, hein. Moi, je suis encore, je sais comment ça se passe, l'entraînement moderne, mais je suis incapable de vous faire un plan d'entraînement pour un coureur à top niveau mondial. Enfin, c'est certainement pas mon domaine, quoi. Je lui enverrai des 5 heures, 6 heures, 7 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Non, je rigole, hein, mais c'est à l'époque, c'était comme ça. Bref, ça pour dire que oui.
T'avais le petit cahier comme Jackie Durand, tu notais tout, toi, dans le petit cahier, les bornes. Là, on n'avait plus là.
Ouais, si, moi j'avais ça. Bon, après, ça a changé. Après, je notais plus. Donc, comme ça, j'étais plus embêté. Mais quand j'étais jeune et mes premières années pro, mais c'était oui, dans le cahier, bien entendu.
Tout était dans le cahier. Tiens, première question, bah c'est notre champion d'Europe qui avait une question pour toi, c'est Christophe Laporte, il nous l'a envoyé il y a quelques secondes, on le remercie. Christophe qui a inauguré ce beau maillot hier
Ouais,
sur
magnifique.
la course où Arnaud Delis s'est imposé. On verra les images tout à l'heure. Christophe Laporte, champion d'Europe et vice-champion du monde.
Salut Thomas, j'espère que ça va bien. Mon Guillaume m'a demandé de te poser une petite question, alors je vais le faire. Je voulais savoir un peu comment t'as abordé les courses, toi, en équipe de France. T'arrives facilement à nous faire, à nous enlever un peu la peur de perdre. Voilà, souvent on hésite parce qu'on veut assurer un résultat ou autre chose. Et toi, t'es vraiment dans l'opposé, tout en étant objectif sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Mais t'arrives facilement à nous, voilà, nous dire de jouer le tout pour le tout, le tout pour la victoire, pas pour assurer un résultat. Et ça, c'est pas facile. Donc je sais pas comment toi t'arrives à gérer tout ça, et je pense que ça va intéresser un peu tout le monde.
Il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse quand il pose la question, c'est dit, on a peur de mal faire. Et toi, on sent que tu nous enlèves ça. Alors, c'est quoi, allez, le leitmotiv de Thomas Voeckler? Est-ce qu'il y a une ligne directrice quand tu lui refais le
Ouais.
briefing? La peur de perdre.
Pas forcément sur le briefing, mais d'une manière générale, quand j'ai les contacts avant ou quand on est même avant le briefing, tout le monde sacralise ce moment dans l'impression qu'il n'y a que le briefing. Je parle pas de l'équipe de France, hein. D'une manière générale, on a l'impression que dans le vélo, le briefing, bien sûr, c'est un moment important, la causerie, dans le foot, bien sûr que c'est important, mais le reste l'est aussi. Et les messages, ils passent pas forcément à la causerie, au briefing, au meeting, appelez ça comme vous voulez. Mais ça me fait très plaisir, cette question. Ça me fait super plaisir qu'ils ressentent ça, parce que c'est le cas. Qu'est-ce qu'on a à perdre? rien à perdre. Je sais pas. Enfin, si c'est faire l'épicier pour aller faire septième, pour montrer, ouais, ben finalement, on est quand même dans le top 10. Je m'en fous complètement, quoi. J'ai pas, c'est toujours le discours que j'ai tenu. Si on a une bonne place en ayant tout fait pour gagner, ouais, pas de problème, on prend les médailles qu'on a pu avoir, deuxième avec Arnaud Démarre, troisième avec Bebe, deuxième l'an dernier avec Chris. Bien sûr, il faut la savourer même cette médaille, mais il faut viser plus haut si on en a les moyens. Et alors, c'est pas des fois, on peut ne pas être les plus forts, et le vélo, c'est pas toujours comme le circuit de Glasgow, on a que forcément les plus forts qui sont devant et il n'y a aucune place à la stratégie ou le côté malin. Et puis après, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a rien à perdre si c'est que du sport, quoi. Par contre, si on a des regrets, là, on peut. Voilà, je vais pas faire mon Steve Chenel à utiliser des expressions un peu limites, mais ouais, je veux dire.
On peut se les mordre.
Voilà. Il aurait dit pire que ça, Chenel.
Arrêtez avec Steve Chenel. On parle tous comme Steve Chenel et après on cherche une excuse pour dire Steve.
Pas à l'antenne.
Il y en a qui s'en mordent les doigts. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu désacralises la causerie.
Oui.
Parce que la causerie au foot, c'est vrai qu'avec les médias, voilà, quand on a une causerie, on est content, on la montre. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que le travail, il se passe pas 10 minutes avant l'effort.
Je dis pas que c'est pas important, c'est super important parce que là il faut être, on rigole pas. Hein, au moment où on discute de la course, moi je préfère quand je dis au mec, je préfère qu'on dise on se voit pour discuter quoi en fin de compte. Alors oui, c'est moi qui parle le plus, bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que ouais, on n'est pas là, c'est pas un bilan comptable quoi. On est là pour, c'est deux fois dans l'année l'équipe de France, trois fois quand il y a les JO et selon les parcours ça s'adresse pas toujours aux mêmes coureurs. Donc vraiment faut. Faut que chacun, il est. En fait, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que chacun, il ait un rôle, qu'il soit fier de ce qu'il fait, qu'il est servi à quelque chose. Et il y a toujours des soucis, que ça soit des chutes, des ennuis mécaniques, des méformes le jour. Ça peut. C'est normal. C'est du vélo. C'est pas des maths. Et après, il faut qu'on ait le sentiment de pas avoir de regrets, quoi. Et si on n'a pas de regrets, voilà. Il y a des fois où ça a pas marché en termes de résultats. Ben franchement, ben il y avait pas de regrets. Il y a certaines fois, il y a pas eu de regrets parce que bon, ben c'est du vélo. Il y a pas un vainqueur, un perdant. Il y a un vainqueur, il y a un classement. Et après, si on est dans le classement, en ayant tout fait pour gagner, tant mieux. Mais on n'a rien à perdre. Si on gagne pas, on gagne pas, quoi. C'est le vélo. On va pas gagner à chaque fois et on va pas faire médaille à chaque fois. Hein.
On partage cet avis. Alors j'avais une question, mais je l'ai perdue. C'est pas grave. On va continuer le conducteur parce qu'il y a des fois où on gagne pas, comme au championnat du monde cette année avec la victoire de Mathieu Van Der Poel. Pas de regret. Il y a pas d'oreillette. Hein, il faut le rappeler sur ces courses la plupart du temps. Donc l'importance des causeries, l'importance de créer un groupe. En tout cas, j'ai eu la chance de regarder en tant que spectateur le dernier championnat d'Europe, que ça soit au championnat d'Europe, que ça soit au championnat du monde. On sent que les garçons savent ce qu'ils ont à faire. Et on voit une façon de courir à la Thomas Voeckler. En tout cas, il y a une façon française de courir depuis 3-4 ans dans cette sélection. Mathieu Van Der Poel, ce jour-là, il est intouchable. Mais bon, il y en aura d'autres.
Ouais, après, il faut. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je tiens. Le jour où mon message ne passe pas auprès des coureurs, c'est-à-dire que la façon dont j'ai envie qu'on court, s'ils disent, mais il est complètement con, on ne va pas faire comme ça, et puis ils font autrement. Je dis pas que c'est facile d'appliquer parce que quand il y a pas d'oreillette, c'est dur. Hein, on peut pas anticiper tous les scénarios. Quoi. Mais ouais, jusque là, j'ai vu cet état d'esprit en tout cas avec le panache, mais pour le résultat. Et ça me va quoi. J'ai l'impression qu'ils marchent, qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'ils y vont au combat avec moi. Pas moi qui pédale, hein, mais ils sont ok quoi. Même si c'est des fois des trucs un peu tarés comme à Trento ou à Louvain, mais on fait en fonction de l'effectif qu'on a par
c'est
rapport
quoi, à la concurrence. C'est quoi les trucs tarés? C'est le harcèlement incessant. On a des cartes, on s'en sert de tout.
Ah bah ça
en fait.
Non, mais c'est faut pas. Oui, voilà. Par contre, je veux que chacun.
On n'est pas là pour amener des bidons. Les équipiers sont pas là pour amener des bidons. Mais ils ont un truc un peu plus important. Il y en a un ou deux, forcément.
Ça peut, mais encore que dans les courses en circuit, c'est pas trop l'idée. Non, mais après, il faut. Ouais, c'est pas du cyclisme où il faut attaquer absolument. Mais à Louvain, on avait décidé d'attaquer. Enfin, je leur avais demandé d'attaquer à 200 bornes de l'arrivée avec des gars comme. Ça devait être Rémi qui a crevé de la roue, avant cassé un rayon, pardon. C'était finalement Bebe qui attaquait à 180 bornes, alors que c'était un des outsiders, Bebe, normalement. Mais j'étais convaincu qu'on avait l'équipe pour le faire. Et à Trento, championnat d'Europe, les gars, ils avaient attaqué au kilomètre 3, où je leur avais demandé. C'était une troisième place à Trento, mais la course d'équipe, elle avait été juste mémorable, quoi. Et comme ouais, ça a été. Donc, et puis après, il y a des fois où on n'a pas les armes, où ça sert à rien de faire ça, où ça serait une connerie de le faire selon le parcours ou quoi. Donc, faut pas toujours. C'est pas parce que ça a marché une fois comme ça que ça remarchera la fois d'après, et ça peut être une bêtise de vouloir reproduire la même chose aussi, quoi.
C'est facile d'être sélectionneur quand on a Julien Alaphilippe, deux fois champion du monde. N'importe qui aurait pu faire de Julien Alaphilippe champion du monde. Je te taquine.
Sans doute. En tout cas, Julien a été champion du monde et moi, je suis très fier de ça.
Qu'est-ce que tu lui as apporté? Il y a eu une rencontre, on l'a senti, entre Thomas Voeckler et Julien Alaphilippe là, sur ces 2-3 années. Il y a eu des moments plus compliqués avec le Yorkshire, hein, notamment, où il nous a fait une petite feuille. Julien Alaphilippe, c'était des conditions particulières. Il est dans le dur en ce moment, Julien?
Ouais. Il est dans le dur. Il sort d'une année 2022 où ça a été très compliqué. Hein, vous l'avez assez rappelé, avec les chutes et les maladies, et surtout les nombreuses chutes. Très grosse chute, et puis après c'est normal d'avoir un temps très longtemps d'adaptation, et puis là, et on lui demande tellement aussi, peut-être que c'était pas très serein non plus à un moment avec les déclarations qu'il a pu avoir. Après, il a pas perdu son talent, Julien, il bosse, il est bien, je le sens très bien. Alors moi, j'ai confiance en lui. C'est clair que l'année 2023, elle n'est pas à la hauteur de ses espérances, et pas de celles qu'on pouvait avoir. Oui, on a envie de le revoir à son meilleur niveau, parce que c'est pas le cas. Et puis après, voilà, il est pas fini, Julien. Il est pas fini, il est certainement pas fini, Julien.
On va l'écouter. Il a fait encore top 10 aujourd'hui à la Copa Bernocchi. Tu suis l'actualité. On parle beaucoup d'une fusion. En tout cas, moi, je vais prendre les infos comme elles arrivent, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs. Hier, on a même entendu qu'aujourd'hui, les salariés de l'équipe Soudal Quickstep allaient recevoir une lettre de licenciement. J'ai eu quelques coureurs au téléphone. Ils n'ont pas reçu la lettre. Mais Julien, il a parlé au micro d'Eurosport ce matin.
Il a compris ?
Ouais, on ne sait pas grand-chose. C'est un peu... compliqué dans la tête de tout le monde, donc on essaie de rester concentré sur ce qu'on a à faire, sur la course surtout, et on espère que la situation va se débloquer, qu'on aura des nouvelles, parce que c'est un peu chiant.
Un peu, parce que c'est quand même l'aventure du pack et tout.
Ouais, c'est triste surtout. Je trouve que voilà, c'est une équipe qui, depuis de nombreuses années, et dans le cœur du cyclisme, avec une histoire derrière tout ça, et je trouve ça triste, mais on n'en est pas là encore, on va pas pleurer, on est là pour faire la course, et on attend des bonnes nouvelles, on espère tous.
Et pendant ce temps-là, Thomas Voeckler a récupéré son vélo. Ça, c'est important. Julien, il dit qu'il est dans l'incertitude. Il dit qu'il faut faire le boulot. Il ne comprend pas qu'une équipe aussi importante que celle de Patrick Lefebvre puisse s'arrêter comme ça. Tu dois avoir des rumeurs, toi aussi. C'est quand même bizarre ce qui est en train de se passer là, ces histoires de fusion. Comment tu analyses tout ça, toi, l'ancien coureur, qui avait envie aussi d'avoir une équipe, on en reparlera.
Sincèrement, je cherche pas à l'analyser, c'est pas des choses sur lesquelles je cherche à être au premier plan de l'info. Voilà, là, pour moi, les deux échéances, elles sont passées. Si je parle des championnats du monde, championnats d'Europe, s'il y avait une course dans les 2-3 semaines et que j'avais des piliers de l'équipe qui étaient concernés, m'inquiéter auprès d'eux, de savoir comment ça va mentalement, est-ce que t'es serein et tout. Mais je cherche pas à avoir plus d'infos, ça me servira à rien. Je suis comme toi, Guillaume, j'attends l'actualité, bien sûr que je regarde tous les jours. Après, oui, ça bouge, c'est vrai que c'est... Donc moi, je suis comme ça, je suis en position d'attente, et puis on va
voir ce que ça donne. Là, je parle pas aux sélectionneurs, mais je parle aux passionnés de vélo, qui suit quand même les choses, qui a été proche, et qui est toujours proche de Jean-René Bardolo. On a l'impression qu'on assiste à un phénomène de trust. Je parle pas du groupe de musique, hein, il y a quelques années. Ouais. On a des super équipes qui sont en train de se réunir parce qu'on a besoin de plus en plus de budget pour se payer les meilleurs coureurs et avoir tous les meilleurs coureurs. Même s'il y en a plus à côté, c'est pas grave. Ouais. Tu ressens ça?
Je sais pas si je le ressens, mais je crois que c'est ce à quoi on est en train d'assister. S'il y a fusion entre les deux mastodontes, après. Il faut voir aussi s'il y a fusion, mais qu'il y a des coureurs de renom qui s'en vont. Ça a l'air d'être le cas pour Primoz Roglic. Est-ce que c'est Remco Evenepoel? C'est plus la même équipe non plus. Est-ce que c'est bien d'avoir deux mastodontes qui se mettent ensemble alors qu'ils sont déjà super forts à côté quand ils sont tout seuls? Pour l'intérêt du sport, moi, je suis pas fan. Maintenant, je pense qu'on va apprendre. On va déjà voir ce qui se passe. Et quand s'il y a quelque chose qui se passe et de quelle manière. Et dans ces genres de situations, On sait souvent, bien après, les langues se délient, on sait souvent après comment ça s'est passé, on trouve des explications. Des fois, on apprend, on ne sait pas tout. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a du remous là, sur cette fin de saison, il y a du remous chaque année en fin de saison, quand... c'est le marché des passages. Ouais. Mais ça fait un moment, ça fait des semaines qu'on le sent venir quand même, hein, avec le peu de recrutement de certains, très peu de coureurs chez l'un, des coureurs qui s'en vont chez l'autre. Bon, on va...
Movistar Ineos, on va surveiller, parce qu'effectivement, quand on regarde la liste de départ pour l'année prochaine, il manque des coureurs.
Mais ça m'embête... Ça m'embête quand j'entends un coureur comme Julien Alaphilippe, c'est pas n'importe qui. C'est pas. Déjà, tous les coureurs méritent le respect, mais un coureur comme Julien Alaphilippe, avec ce qu'il a apporté et l'emblème que c'est, de ne pas savoir où il va être demain, enfin, ce qui va devenir demain, quoi, parce que c'est ça, si j'ai bien compris, hein, à travers son discours.
Il va rester un an de contrat, et effectivement, il faut qu'il.
Je ne jette la pierre à personne, mais ça m'interpelle.
Ouais, parce que il veut être compétitif, Julien. Donc il va pas falloir faire ce choix au dernier moment. Il faut un staff, il faut un matériel, il faut avoir une équipe qui est capable de l'emmener au plus haut niveau. Bon, affaire à suivre.
Ouais, et puis il y a pas que Julien, il y a d'autres coureurs, il y a du staff. Enfin bon, alors pour l'instant on extrapole. On verra bien ce qui se passe et puis on dissertera là-dessus après.
Ouais, comme tu le disais, je pense qu'on sait pas tout parce qu'il y a d'autres problèmes, des problèmes juridiques pour certaines. Je vois pas comment on peut faire disparaître une équipe comme ça, les lettres de licenciement, faire un contrat pour une autre équipe. C'est pas forcément les mêmes lois du travail, de pays à pays également. Ouais. C'est un peu plus compliqué. On va parler vélo. Et l'image pour moi hein, de cette semaine, c'est Arnaud Delis. Arnaud Delis qui gagne la Falmen classique sur une jambe. C'est mon énorme coup de cœur, Arnaud Delis, de cette saison. Hors coureur français. Hein. Le cœur, il bat pour les coureurs français. Vous le savez, Arnaud Delis qui parle très, très bien français.
Quoi, Delis,
mais voilà, moi j'aime la fraîcheur d'Arnaud Delis, la puissance d'Arnaud Delis, puis la façon de courir. Honnêtement, on en tient un bon là. Parler de sprinter,
franchement, on peut pas l'aimer, à part celui qui a un contentieux avec, parce qu'il a été battu en cadet ou un truc comme ça, je sais pas, mais il est adorable ce mec. Il parle super, il parle naturellement quand on lui pose des questions, il dit ce qu'il pense, voilà. Il fait des trucs de fou sur le vélo, il se bat comme un chien, vraiment, et puis il va gagner en déchaussant 50 mètres de l'arrivée, c'est génial, quoi. Et puis, ouais, voilà, ça fait du bien, et puis il a des. On sent que c'est un bon mec, quoi. C'est dans le vélo, au final. Moi, j'adore ce genre de mec.
Ils ont Ken Heugtebroeks aussi, je suppose que tu as regardé la Vuelta. Il a toujours la banane quand il arrive. Il y a Wout van Aert, il y a Remco Evenepoel.
Ouais, puis
vive la Belgique.
Heugtebroeks, là, ça, je te laisse les scander les emblèmes comme ça. Mais Heugtebroeks, par exemple, je l'ai bien aimé après la Vuelta. Tout le monde fait de la langue de bois et tout. Et puis il a dit, ouais, Vlasov, ce qui l'importait, c'était de finir devant moi, quoi. Moi, je trouve ça super. C'est ça qu'il faut encore au vélo, c'est d'avoir des discours comme ça. Mais après le mec, comme certains Remco Evenepoel, il y en a qui disent qu'il a la grosse tête ou quoi. Mais on a un gars qui annonce, qui est confiant et puis il fait. Donc il va pas mentir non plus, sinon on va se retrouver tous avec des langues de bois. Donc puis, c'est très bien comme ça, j'adore.
On parle de son orgueil à Remco Evenepoel, tu connais Bernard Hinault, tu connais Dimer, son thème d'orgueil. Je pense qu'il le grand champion a l'orgueil, voilà, Thomas. Le grand champion est forcément orgueilleux.
Ah, il en faut, hein.
En course, à la limite, hein, parce qu'après, dans la vie, mais en course.
Oui, bah, de toute façon, les exemples que tu viens de citer, hein, voilà. Après, il y a des coureurs, qui étaient peut-être plus soft face caméra, mais qui en avaient quand même, et qui en avaient même beaucoup quand c'était au moment de jouer les coudes ou de passer à la vitesse supérieure dans le peloton. Donc, ouais, les champions, ils ont de l'orgueil.
Votre image, c'était tout à l'heure la victoire de Wout van Aert sur la Copa Bernocchi. On en a parlé, le top 10 de Julien Alaphilippe. Et puis le dernier dossard de l'ADA, Mathieu Ladanius, qui a mis un terme à sa carrière aujourd'hui. Il y a beaucoup de coureurs qui s'arrêtent, des coureurs français de saison. Il y a toute une génération qui part, j'ai presque envie de partir avec eux.
Cette année, je crois que c'est peut-être le pire au niveau de la fournée là, qui s'en va. Entre Thibaut, entre Tony, Maxime Boué, Laurent Pichon.
Tu vas en oublier, Ladanius, Pierre-Luc Périchon. On va en oublier,
Pierre-Luc. Oui, bien sûr qu'on va en oublier, évidemment. Mais oui, ça fait. Ces coureurs qu'on a l'habitude, quand on suit le vélo, pas seulement au Tour de France, mais qu'on suit le vélo toute l'année, et puis qui sont pas forcément. Bon, je parle pas pour Tony et puis pour Thibaut Pinot. Mais il y a des coureurs qu'on n'a pas vu gagner beaucoup, mais on sait ô combien ils sont importants. Ils ont fait 15 ans chez les pros, quoi. Et puis ils vont tirer leur révérence. Et puis c'est des jeunes qui prennent leur place. C'est la loi du vélo, mais ça met un coup de vieux, bien sûr.
On a vu une petite photo, tu étais avec Pipiche sur le podium des 4 jours de Dunkerque il y a quelques années avec un joli maillot rose, tu regarderas tout seul. Tout ça tout à l'heure à la maison. Une autre image, le Tour de Vendée, hier, la victoire d'Aaron Démare. Au démarre, il est souvent dans tes sélections, il a quitté la Groupama, il bat d'ailleurs Paul Penouette qui lui va remporter la Coupe de France FDJ. Ça y est, il s'est relancé, Arnaud Démare, il a encore de grandes années devant lui, 94e victoire pour le sprinter français hier.
Ouais, Arnaud Démare, il n'est pas fini. Hein. Ça a été une année un petit peu particulière pour lui. Hier, il ne fallait pas être sorti des plus grands pronostiqueurs pour dire qu'il était quand même l'homme le plus à même de gagner. J'ai vu au championnat d'Europe, forcément, avec les problèmes mécaniques qu'il a eu, la force, l'état de forme qu'il avait. Et là, on a vu son équipe complètement soudée autour de lui. Un très beau Paul Penouette qui fait deuxième, on sentait en interview, il était dégoûté. Quoi. Donc, j'aime bien ce caractère-là. Le mec, il vient juste de passer. C'est pro, il fait deuxième derrière Démare, ce qui n'a rien de. Il n'y a pas à rougir, quoi. Et non, il était là,
ses coéquipiers. Deux victoires pour lui cette année, la Coupe de France. Ouais. Romain Grégoire, puis, première saison, 5 victoires. Lenny Martinez.
Donc, Arnaud, il est soulagé. Première victoire sous ses nouvelles couleurs. Il a été embauché pour gagner. Il a gagné ça, voilà. Il arrive sur Paris Tour. Mais voilà, on a des. On a des bons Français. Arnaud Démare, il fait partie des meubles et on a des jeunes Français qui arrivent. Et j'ai envie de dire, il était temps parce que ça bouge quand même pas mal la concurrence et on rétrograde, on a un petit peu rétrogradé quand même dans la hiérarchie mondiale.
Ouais, on va regarder justement le classement de cette hiérarchie mondiale, mais le classement qui te concerne, c'est-à-dire le classement qui va déterminer le nombre de places pour les Jeux Olympiques. Pour l'instant, pas de problème. La France, elle est cinquième et avec la cinquième place, on a 4 coureurs. Bon, les Espagnols sont assez loin. Le classement s'arrêtera au 17 octobre. On regardera ce qui se passe sur le Lombardie. Il ne faudrait pas qu'Ayuso et Enric Mas aillent chercher des gros points. 4 coureurs. Moi, c'est un truc de fou. On va parler du profil dans quelques instants. 4 coureurs, 270 km.
Plus que ça même. Hein. On est proche des 290.
Non, 73. Voilà, 200, tu chipotes pour toi. Je t'ai pas compté le départ fictif. Comment on gère ça ? 4 coureurs.
On va voir au mois de juillet prochain. C'est très particulier. Ça ne va pas ressembler à une course. Ça va être complètement différent de toutes les classiques. Parce que si on regarde juste comme ça, 273 bornes, tiens, Vallée de Chevreuse, Montmartre, c'est pas insurmontable. Ils font plusieurs fois dans l'année à 4 coureurs par équipe, alors qu'il n'y a que 5 équipes sur les grandes classiques. Vous avez 25 équipes à 7 coureurs. Là, il y aura 5 équipes à 4. Ensuite, vous descendez à 3 coureurs par équipe. C'est juste un truc. Ça sera complètement atypique comme course.
On aura 90 coureurs, un peloton de 90 au départ. Chez les filles, on écoutera Paul Brousse. Normalement, il y aura 3 françaises. Au pire, le pays organisateur a 2 représentants, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. L'objectif, c'est d'en avoir 4.
C'est vrai qu'on, je suis pas serein pour qu'on ait 4 coureurs. Je considérais ça comme acquis. Et puis la Grande-Bretagne, l'Espagne, ça va être chaud jusqu'au bout. On rappelle que c'est les 8 meilleurs scoreurs de chaque pays. Hein. C'est pas tous les points qui comptent, c'est les 8 meilleurs scoreurs de chaque nation. Donc si un coureur qui n'a pas de points, s'il va gagner Paris Tour, ça sert à rien pour la France, quoi. Ce que je veux dire, c'est que si on perd un coureur, c'est pas le mot, mais si on passe à 3 au lieu de 4, en tant que pays organisateur, on perd 25% de l'équipe. C'est, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe, mais on est la France, quoi. On doit être à plein, quoi. Je croise les doigts.
On va écouter Steve Chedel qui avait une question pour toi. Vous pouvez aller regarder la reco de Steve Chedel. Il l'a faite, je sais que tu l'as faite également. Il a bien en tête ce parcours. Il te parle justement du parcours et de la sélection.
Salut Thomas, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as effectué cette reconnaissance de Paris 2024, ce circuit autour de Montmartre avec ses pavés, ses toutes petites routes. Ça va être assez spectaculaire et surtout relativement long. Je crois qu'il y a beaucoup de kilomètres. Et justement, suite à cette reconnaissance que tu as certainement donc dû faire, est-ce que pour toi il y a plusieurs options possibles? Venir avec des coureurs bien évidemment capables de l'emporter, plusieurs cartes ou tout mettre sur un seul homme? Bonne réponse.
Compliqué. Comment on fait? On a 2 cartes, on a une carte, on a. C'est quoi c'est le profil dit. C'est un profil de puncher?
Ça, 273 km à 4 coureurs par équipe, ça change tout. Ceci dit, c'est pas pour les purs grimpeurs, ça c'est clair. Ça peut être pour un coureur comme Philipsen, c'est tout à fait open pour lui, mais ça dépend comment ça va courir. Et ça. Si j'avais une idée précise aujourd'hui, ça serait bien. Pourtant, j'ai quand même eu une idée. Hein. Je ne veux pas dire que j'y pense pas, mais ça va s'affiner. Alors, pour répondre à la question de Steve, c'est une très bonne question. Et il connaît le vélo, le garçon. Eh bien, ça dépend. Je suis normand pour cette réponse. Ça dépend de ce que vous avez en magasin en termes de leader. Ça dépend par rapport à c'est un leader, c'est pas le, quel est le plus fort de mon équipe. C'est qu'est-ce que je peux en faire par rapport à l'opposition et compte tenu du parcours. Est-ce que sur tel parcours, par rapport aux autres mecs qui sont là, est-ce qu'il peut tous les sortir? Julien Philippe à Imola. Voilà. Est-ce que c'est possible? Donc ça dépend aussi. Après, est-ce qu'on est outsider? Est-ce qu'on a un mec qui est capable de gagner le titre compte tenu du parcours face à l'opposition qu'il y aura? Et je rappelle, là, on est en début octobre 2023. C'est dans longtemps encore. C'est dans longtemps, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, je mentirais si je disais que je savais déjà si on y allait tout pour un coureur ou bien si on va diviser un petit peu. Et bien sûr que j'ai aussi appris à être patient dans le choix des hommes.
C'est-à-dire que c'est conjoncturel. C'est-à-dire que tu vas voir ce qui se passe la saison prochaine. Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des garçons qui n'auront pas d'équipe, ou en tout cas qui auront eu des problèmes cet hiver. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mis des noms quand même. Madouas, 270 bornes, il aime bien ça. Julien Lafilippe, Benoît Cosnefroy, tu les as quand même, les coureurs. Je me suis arrêté à 3, comme ça laisse plus de place. Mais on les a. Le problème, c'est d'avoir qu'un leader. Il faudra avoir qu'un leader, c'est ce que tu disais.
Non, ça c'était la question de Steve. Est-ce qu'on y va pour un, on fait tout pour un mec, donc en gros 3 pour 1, ou est-ce qu'on met des cartes plutôt, on divise un petit peu les chances pour avoir plus de probabilités, peut-être moins de gars qui se sacrifient pour un leader unique. Et là il faudra voir. Ça dépend. Chaque sélectionneur fera sa stratégie. Je ferai la mienne de sélection. Mais oui, ça va être très particulier comme échéance et très très important et bien sûr pour l'équipe de France.
Tu as fait les Jeux, tu as même terminé meilleur français. Je suis allé vérifier ça. C'était Athènes. Tu verras, il y a plein de petites photos. Je t'en avais envoyé une ou deux. Tu avais terminé 20e ce jour-là. On voit qu'il y avait Richard Viran, qu'il y avait le grand Christophe Moreau. Les Jeux, ça veut dire quoi pour Thomas Voeckler?
Je suis content de les avoir fait. Voilà, j'y allais pas pour. C'était en 2004, hein, je rappelle. Je me souviens que c'était Patrick Cluzeau qui était venu avec. C'était Fred, hein, mon cassin à l'époque. Puis à la fin du Tour de France, il a dit bon, tu viens au JO parce que le public français, il comprendrait pas si on t'emmène pas, quoi. Mais bon, c'était vraiment parce qu'ils étaient un peu obligés. J'avais fait premier français, j'avais passé une belle semaine là-bas. J'ai fait les Jeux Olympiques. On n'avait pas forcément des ambitions de fou face à des Paolo Bottini et tout sur un parcours comme ça. On n'était pas, pourquoi pas une médaille de bronze. On aurait peut-être pu aller en chercher quand Axel Merckx est sorti en contre. Ça, il y a peut-être moyen. Mais c'est une très très belle expérience. Mais je crois que, en tout cas, pour parler de ceux de 2024, je peux vous assurer que les coureurs. Alors, des fois, on se dit, les JO, c'est dans la foulée du Tour. Ils vont s'occuper du Tour et puis on va aller sur la forme, sur la lancée. Là, non. Je peux vous assurer que les coureurs français j'ai bien senti que j'allais pas voir qu'il n'y a pas de mal à trouver des candidats, quoi. Ça, c'est clair. C'est un objectif à part entière.
Ça a changé. On écoute ce que tu disais. J'en discute souvent avec Jackie qui a un vrai amour des Jeux aujourd'hui. Par contre, quand il était coureur, pour un cycliste, les Jeux, c'était un truc en plus, quoi.
Ouais, je crois que ça s'est fait, on rappelle, si je dis pas de bêtises, hein, que c'est que depuis 96 que c'est ouvert aux professionnels avec Pascal Richard, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Donc, il pointe
92,
un petit peu de temps.
C'est Fabio Carzartelli qui était champion olympique.
C'est ça, voilà. Et après, il faut un petit peu de temps. Il faut que ça soit porté de manière emblématique. Il faut que ça soit aussi marketé. Non, ça, c'est vraiment, en l'occurrence, pour des Jeux Olympiques, c'est vraiment pas du tout le bon terme. Je retire ce que j'ai dit. Il faut que ça fasse sa place quand vous avez des Van Avermaet, des coureurs qui étaient vraiment fiers d'être champion olympique. Et puis, ça dure 4 ans. Et puis, alors là, du côté de l'équipe de France, en plus, c'est la seule fois qu'ils vont l'avoir à la maison, quoi, hein, c'est clair. Hein, donc, mais il y a vraiment un intérêt énorme pour les Jeux Olympiques, bien supérieur à il y a une vingtaine d'années. Hein.
C'est ça, hein, Richard Carapaz, on va revoir les images, parce que c'est le champion olympique. Maintenant, il y a les liserés. On les porte 4 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, chaque coureur veut être champion olympique. En tout cas, ça fait parmi des grandes victoires, comme d'aller chercher un monument ou d'être champion du monde, même si on ne porte pas ce maillot pendant un an. Là, en l'occurrence, ce sont des liserés qui ont été rajoutés. Ça n'existait pas, ça. Hein, les liserés, c'est venu avec Greg Van Avermaet, justement. Là, on sent que tous les grands coureurs veulent être champion olympique.
Ouais, c'est tant mieux, parce que ça ne fait que rehausser la valeur de cette course olympique. Franchement, je ne sais pas pourquoi, en tout cas. moi je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est les Jeux Olympiques quoi, et c'est vrai que quand il y a des joueurs comme Rafael Nadal, Roger Federer qui disent ça manque avec tout ce qu'ils ont gagné, et Roger Federer qui a fini, si je dis pas de bêtises, à être champion olympique avec Stan Wawrinka.
Exactement, en double. Tu dis pas de bêtises.
Et qu'un gars comme ça, avec le palmarès, qu'il aille chercher ça, ce que ça, voilà, le mec, il a pas besoin de qu'on lui cire les pompes ou bien d'avoir de la médiatisation ou bien de gagner de l'argent. Hein. Il y va parce qu'il aime le sport, il aime les valeurs du sport, les valeurs universelles.
Et Kylian Mbappé, on pourrait le rajouter, on sent qu'il a envie d'y aller.
Exactement.
Et peut-être ouais. aussi que ça a commencé avec la Dream Team, la NBA. NBA a amené ça, c'est-à-dire que c'était des joueurs super professionnels.
Peut-être que tous ces sports-là ont fait des émules et dans le vélo on s'est approprié ça. Je sais pas, ça j'en parle comme ça avec vous là, mais j'ai pas de théorie là-dessus. Hein.
On va continuer. On parlait. Qu'est-ce que tu me disais, Seb? Antoine Dupont, on me dit veut y aller en rugby. Mais attends, Antoine Dupont, le blessé, il faut déjà. Bon, attends, Antoine Dupont, le rugby n'y est pas. Ça sera donc du rugby à 7.
Rugby à 7, c'est ça.
On verra. Rugby à 7, on pourrait. Non, on pourrait pas. Tiens, une petite question de l'autre sélectionneur des équipes de France, Paul Brousse, sélectionneur des filles. On l'écoute, Paul.
Salut Thomas. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. J'avais pas une, mais deux questions à te poser. La première, c'était de savoir si tu savais si un coach d'équipe nationale avait déjà réussi à guider une équipe à la victoire sur les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux Olympiques, ou allez, on va dire même une médaille olympique. Ça, c'est très beau. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le monde. Ça, c'était ma première question. Puis ma deuxième question qui est en référence à Tokyo, voilà, est-ce que tu penses que sur Paris, on va pouvoir se refaire une petite coalition avec nos amis coréens? Voilà, allez, salut Thomas, à bientôt.
Paul qui a tenté l'anecdote. Christophe, il m'a envoyé un petit message, j'ai voulu faire drôle, mais j'ai pas fait drôle, j'ai fait un truc carré. Bon, on l'a cherché, Claude Onesta l'a fait.
Avec Claude. Grand
et toi,
monsieur.
Toi, tu t'en fous, j'en suis sûr.
Bah en fait, je n'aurais pas cherché cette statistique. C'est, voilà, chaque sport est différent. Claude Onesta, c'est un emblème du hand. Et aujourd'hui, dans un poste très important avec la pression pour les Paris 2024.
Encore. Responsable de la performance pour les équipes de France.
Je m'en fiche. Comme j'ai dit en début d'émission, hein, je ne vais pas vous dire que ça ne compte pas les résultats. Je suis super fier d'avoir été à la tête de l'équipe qui a été deux fois championne du monde, championne d'Europe, ramener des... Et du mixte aussi cette année, en plus de la course en ligne. Ramener des
avec Paul Brousse, on va revoir les images. Et vice-champion du monde aussi, avec Brian Coquart.
Tout ça, ça compte plus du tout, enfin, dans l'optique de Paris. Alors, quand je dis que ça compte plus, c'est-à-dire, dans l'enchaînement, ça n'a pas de valeur pour moi. Par contre, bien sûr que je tiens compte de ce qui s'est passé avant pour aborder l'échéance, mais le fait que ça, c'est. On va faire une course de vélo, on va la préparer le mieux possible, une course particulière, et puis on va tout faire pour amener une médaille, parce que les JO, ce qui est quand même différent, c'est que les trois places sont importantes. Alors peut-être que sur les courses, enfin les trois places peuvent être vraiment un objectif, donc pas une conséquence de jouer la gagne. Donc c'est clair que si vous avez trois coureurs dans un final de Jeux Olympiques, ça va s'entendre sans problème. Si vous en avez quatre, c'est plus compliqué.
C'est bizarre, mais je te crois pas dans tout ce que tu dis. Parce que là, je revois les images. Le relais mixte, il y a quelques années, tout le monde s'en foutait. Puis tu es arrivé, tu dis, tiens, il y a peut-être un coup à faire. On va aller téléphoner aux mecs, on va les impliquer.
Ouais.
Et là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Thomas Buckler là derrière.
Franchement,
et
ça
Paul
a été...
aussi. Hein.
Ouais, bien sûr. Paul, c'est vraiment mon binôme. Hein. Bien sûr, avec les staffs de la Fédé, que ce soit les coachs des juniors hommes et femmes, des U23 hommes et femmes, on travaille régulièrement toute l'année ensemble. Avec Polo, c'est lui qui me pilote quand on est en voiture, c'est moi qui le pilote quand lui il est en course, quand on est à la course des élites femmes. Donc, on a une très très belle complicité et c'est vrai que ce relais mixte, on y tient. Parce que depuis 2019 où cette épreuve a été créée, franchement, même moi, j'ai quand même dû regarder ce que c'était, quoi, le relais mixte. Et j'ai découvert cette épreuve, on a découvert cette épreuve.
Elle a des vertus, cette épreuve. Elle a énormément de vertus.
C'est une émulation, en tout cas dans un collectif. Et moi, je suis très 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 attaché à cette notion de collectif, mais pas seulement les coureurs au sens large. Et voilà, qu'à l'hôtel. Les filles, elles mangent avec les mecs, que ça discute partout, que ça soit pas cloisonné. J'ai connu ça quand je venais en équipe de France et j'étais le premier à faire ma tête de con, à rester à table avec juste des pros et à pas trop échanger. Donc, je peux pas, c'est, mais un coup de pas aussi, quoi. Je veux dire, je fais mon autocritique, mais ouais, il y a vraiment, ça crée une ambiance pour lancer une semaine, c'est génial quoi. Et puis de toute façon Jackie l'a rappelé quand vous le diffusiez le championnat d'Europe, que avant il y avait des réticences, et c'est vrai que et depuis 2-3 ans c'est vraiment on a tous les meilleurs du chrono, et là où c'était un petit peu difficile pour le coup d'avoir des coureurs, pour pas forcément le coureur en lui-même hein, mais les équipes de libérer, là ça a pris, et l'équipe de France est vice-championne du monde et championne d'Europe avec les trois filles et les trois mecs, et c'est juste extraordinaire.
Et on a revu les images, la joie, et c'est ça la joie du collectif, c'est pour ça que je dis que ça a des vertus dans la construction de cet esprit d'équipe, tu en parlais tout à l'heure. On va prendre des questions dans quelques instants. Je voulais juste, tiens, on va regarder le programme vélo d'Eurosport. Il y aura des choses à suivre sur nos copains de France Télévisions, on les salue, là où tu travailles avec la chaîne L'Équipe. Nous on est contents parce qu'il n'y a jamais eu autant de vélos à la télé, et ça c'est le plus important pour les fans de vélo. Mardi, Binchy, Mébinche, garçon, fille, le Tour du Munster, bien sûr les trois vallées varésines, jeudi le début du Tour du Hainan, le Grand Piémontais, hein, c'est la montée en puissance, il y a des chatouilles, je ne sais pas ce qui se passe, Roi de la Pédale, Tour de Lombardie, avec la dernière de Thibaut Pinot, Paris Tour, 15h, ce sera la dernière de Greg Van Avermaet et de Tony Galopin également dimanche, Tour de Turquie qui commencera, et la semaine prochaine on recevra Cédrine Kerbaol, justement elle était dans de votre équipe. Y a qui ?
Ça va faire drôle,
y a un fan. Y a un fan,
il n'y aura plus rien.
Ouais, t'inquiète, on trouvera des choses à faire, il y a l'hiver qui arrive, nous tu sais, on est la chaîne des sports d'hiver. T'as trouvé un fan à côté de toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'entendais rigoler.
Moi, non, pas du tout. je croyais que tu parlais à la régie, mais non, il n'y a pas...
Allez, non, on y va avec deux, trois questions. Je les prends comme ça. Hein. Léo, Burgodo au JO. C'est l'occasion de parler de Mathieu Burgodo. Mathieu Burgodo, malchanceux, mais honnêtement, il fait partie des coureurs qui a un step cette année.
Ah bah, il a été énorme, Mathieu Burgodo. C'est vrai que il n'était pas, par exemple, au championnat d'Europe. C'est pas ses qualités, son niveau physique qui en compte. Il y a des critères de placement, de frottage qui, c'est peut-être pas trop ce qu'il adorait, mais c'est clairement, moi, il m'a épaté cette année dans la montagne, quoi. Je savais que c'était
Tour de France. Il a travaillé, il a passé un truc.
Il faut qu'il continue, mais clairement, c'est un coureur. C'est un des tout meilleurs coureurs français, hein, évidemment.
Alors Seb a même des images de Mathieu Burgodo. Tu aurais pas dû sortir ça là parce que c'est le moment où il prend un bidon. C'était pendant.
Ah oui, je la connais.
Il a été bon Seb, il a pas passé jusqu'au bout.
Est-ce que quand il y a des bidons collés, on est deux, il y a pas que le coureur.
Ah mais je sais bien. Puis après les mecs ils râlent, ils ont jamais vu du vélo. Oh, c'est quoi ces bidons collés?
Celui-là il était beau. Lâcher un mec là, c'est
au niveau
discret, on peut faire mieux.
Avec la caméra au cul, c'est sûr, c'est compliqué. Ton avis sur Lenny Martinez, Plastoc qui pose la question. Le petit Lenny, 20 piges.
Eh bien, pas surpris de ce qu'il a fait à la Vuelta. Content de le voir arriver parce que en pur grimpeur, eh bien, on va avoir besoin de lui. Donc, mon avis, c'est qu'on va le voir très vite. C'est un Martinez. Il a la tête dure, dans le bon sens du terme. Attention, c'est dans le bon sens que je dis ça, bien sûr. Et voilà, c'est un régal, quoi. C'est un régal à voir. Et puis, qu'ils viennent nous foutre le bordel sur les étapes de montagne du Tour, quoi.
Tiens, il y a Jordan qui a raison. On n'a pas répondu à la deuxième partie de Paul Brousse. C'est quoi cette histoire?
Oui, exact.
La coalition coréenne, c'est quoi cette histoire?
Alors non, parce qu'à Tokyo, si vous voulez, on avait Paul Brousse. Alors on va avoir trois filles à Paris. Et à
trois
Tokyo,
filles, normalement.
Que Juliette normalement, ouais, ça part pour ça, ce qui est déjà énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait justement une seule fille à Tokyo. Le cyclisme français, il s'est fait une place vraiment, je parle du cyclisme féminin, il s'est fait une place au plus haut niveau, c'est énorme. Les filles, elles bossent super bien. Et ce que je veux dire, donc on avait Juliette Labousse, donc on devait partager la voiture avec le staff coréen. Et donc il y avait Polo et moi, on était deux, avec un mécano ça fait trois, et vous faites votre dessin, il restait une place à l'arrière gauche, quoi. Enfin à l'arrière droit, puisqu'on dépannait à gauche, on conduisait à gauche. Bref, et puis j'arrive, le coach coréen, il était devant, quoi. Donc je lui ai demandé gentiment est-ce qu'il pouvait aller derrière. Et puis ce qui s'est passé, on était bien contents de la trouver, cette coureuse coréenne qui était admirable, parce qu'à un moment, on voulait ravitailler Juliette, elle nous entendait pas d'oreillette, et puis alors que la coureuse coréenne est venue à la voiture, donc on lui a demandé d'aller amener des bidons à la française, qu'elle a fait avec beaucoup elle était très enjouée de le faire. Elle était contente d'avoir aidé une coureuse de l'équipe de France, et puis voilà, c'est des petites particularités qu'on connaît pas sur d'autres courses, quoi.
Ouais, mais c'est intéressant parce que ça pourrait se reproduire sur les JO. On aura peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui remonte des bidons à charge de revanche. Ça peut se passer. Tu es dans une boîte de nuit, l'aéroport qui est en train de se transformer en boîte de nuit là. J'ai pas
ouais, c'est un spots. Chariot là pour les bagages. Mais,
je te le disais, à chaque fois que tu arrives, ça y est, c'est la fête. elle est où? Je vais te la poser, forcément. Alors je sais plus qui l'a posée.
Au championnat d'Europe, c'est vrai qu'il faut, quand il n'y a pas d'oreillette, c'est vraiment particulier. Hein. Moi, on est allé à l'arrière du peloton à un moment. Je voulais appeler Mathis Louvel pour lui demander de. Donc c'est à l'ancienne, quoi. On gueule à l'arrière du peloton. Et puis il n'entendait pas. Et j'ai demandé à un coureur d'aller appeler le coureur français, quoi. Un étranger que j'ai trouvé à l'arrière du peloton. Et il allait appeler Mathis. Donc c'est. Voilà.
T'as mis plein de systèmes. Il y a le système des pancartes. Toi, tu n'hésites pas à quitter la voiture, aller dans un virage, te rapprocher, tout ça à la reco. Mais il faut s'adapter. On sent en plus que ça te stresse. Tu envoies même des textos aux journalistes pour passer ton stress. C'est ta façon de communiquer. Comme si nous, en le disant l'antenne, ils allaient l'entendre. Ils n'ont pas l'application.
Non, ça dépend des moments. Quand il n'y a pas le feu, je passe des fois quelques infos, c'est vrai. Parce que
à toutes les chaînes, je me précise. Allez,
bien sûr. Ah oui, quand je suis avec ma casquette de sélectionneur, il n'y a pas de favoritisme. Et disons que je me mets à la place. Voilà, les gens, ils aiment bien regarder. Enfin, moi, j'aime bien regarder le vélo. Les gens qui aiment le vélo, ils aiment bien regarder le vélo, quelle que soit la chaîne. Et puis, si ça peut aider le téléspectateur et que moi, ça me. Quand c'est dans un moment tranquille ou quoi, que ça permet d'éclairer, eh bien, avec plaisir, quoi. Donc, ouais, oui, il y a de la tension. Je ne cache pas que je ne fais pas ça à tout le moment de la course, c'est clair.
Jonathan, est-ce que tu voudrais avoir ta propre équipe? Tu avais cette envie à la fin de ta carrière. Tu as fait le management à Limoges.
Depuis, ouais, c'est vrai.
Il y a la télé qui est arrivée, il y a le poste de sélectionneur. Tu as beaucoup d'activités à côté également avec les Ironman notamment. Tu t'es mis à la course à pied, à la nage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours en tête ou est-ce qu'aujourd'hui tu es tout simplement équilibré dans ce que tu fais?
Pour aujourd'hui, ça va. On verra.
Et pour demain? L'idéal est toujours là? L'idéal est toujours là?
Ouais, j'aime bien le terrain. J'aime bien le terrain. Je suis vraiment bien sur le terrain. C'est un privilège. Je le considère vraiment comme un privilège d'être à la tête de l'équipe de France. Hein. Et puis, je prends un plaisir énorme. Donc, j'ai des idées pour l'instant. Statu quo et ça me va bien comme ça. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, on se refera un bistrot vélo.
De l'extérieur, à mon avis, c'est toi qui as la meilleure place. Hein.
Après,
la moto place, avec France Télévisions, t'es encore dans le peloton, tu fais tes petites sélections. Alors c'est sûr, il n'y a que 2 climax dans l'année, ça doit un petit peu te monter.
Ou 3 l'an prochain.
Ouais, 3 l'an prochain, mais ouais. Pour les autres, c'est, à chaque fois que je les ai, ils seront en déprime. Hein. Ah, c'est des no-beats, c'est des casse-têtes tout le temps, même l'hiver.
Ouais, mais après, c'est clair que je pense que c'est pas la même fonction d'être manager d'équipe, même directeur sportif, c'est différent d'être sélectionneur et directeur sportif, c'est encore différent d'être manager. Donc je n'exclus rien. C'est vrai que je crois qu'à un moment on a plus voulu que on me voyait plus reprendre une équipe que moi-même je ne me voyais le faire. Ça, je pense que ça a beaucoup parlé à ma place.
Il y avait peut-être des gens qui avaient envie de te la refiler l'équipe.
Peut-être, peut-être. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir d'être à la tête de l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est comme ça, la suite, on verra.
Qu'est-ce qu'il fait Thomas Voeckler à partir de maintenant là? Il va prendre un petit peu de recul?
Ouais, là, c'est vrai que ma période avec les fonctions de consultant et puis sélectionneur, c'est bien chargé de fin mai jusqu'à fin septembre. Donc, c'est des mois compliqués. Et puis, j'ai 3 enfants, j'ai une vie privée. J'ai 3 enfants dont j'adore m'occuper. Le temps a passé très vite quand j'étais coureur et avec énormément de temps parti. Donc, je profite avec mes proches. Puis j'essaye de me remettre un peu plus régulièrement au sport aussi parce que là t'as vendu un peu de rêve là, Ironman et tout, j'ai fait une fois en relais. J'avais une photo
on la remontre, t'as l'air au top.
je fais pas toujours du sport régulièrement et là quand ça se calme un petit peu au niveau professionnel là, la semaine dernière j'ai fait du sport tous les jours. Bon, la météo ça a aidé, mais bon, je suis pas dans l'optique de performance pour essayer de pas faire 150 kilos et puis être prendre du plaisir.
Ancien pro, il faut pas être dans l'optique de performance, hein, autrement tu vas être dans la dep tout de suite.
Ah non, ça fait mal. Déjà les montées, j'essaye plus d'aller vite, je fais semblant de me balader. Sur le plat, j'essaye encore de soigner la moyenne, mais c'est des fois laborieux.
Tu m'as tendu une paire, je voulais pas la poser celle-là, mais je vais la poser quand même. On parle du galibier. Tu te rappelles le galibier? Qui a fait l'erreur dans le galibier? Je ne sais pas qui pose cette question.
Les torts sont partagés. Il y a eu des erreurs de fait du côté des directeurs sportifs.
On rappelle, t'es maillot jaune. Ouais. C'est là où se joue peut-être le podium du Tour de France.
Ouais, en fin de compte, ce qui s'est passé, hein, c'est de la faire très courte. Télégraphe Galibier, ça attaque dans le télégraphe. Contador, il va avec Schleck dans l'aspiration de la moto. Et Evans, il s'écarte. Moi, je pensais pas avoir une chance de gagner le tour. Et quand je le vois s'écarter, il avait un problème mécanique, je ne savais pas. Je me suis dit, punaise, il est pas bien. C'est peut-être la seule chance que j'ai de gagner le tour. Sauf que j'avais perdu ces 7-8 secondes que j'ai jamais su boucher. Et j'étais convaincu que derrière, c'était la débandade. Et à 3-4 bornes du sommet, j'ai entendu que c'était organisé derrière et que l'équipe BMC roulait pour Cadel Evans.
Et toi, je n'ai jamais eu cette information. Et t'es jamais rentré.
Je n'ai jamais eu cette information. Et les directeurs sportifs, ils n'ont pas osé me le dire. Donc, je ne leur en veux pas. Mais bien sûr que normalement, il aurait fallu me dire c'est organisé derrière, BMC roule, je me serais relevé.
Relève-toi, reste au cul. Et...
Mais là où je dis que je n'en veux pas, c'est que j'avais tellement un fort caractère, et puis je l'envoyais tellement chier facilement, et puis je disais, c'est tellement moi qui décidais comment je voulais courir, il fallait surtout pas qu'on me dise, bon, allez, flic ingé, lui, il m'aurait dit, t'arrêtes de faire ton guignol, tu te relèves, c'est organisé, mais c'était pas facile de me le dire, donc je comprends qu'il me l'ait pas dit aussi, voilà, mais normalement, il aurait fallu le faire, mais je comprends qu'il l'ait pas fait, et j'ai pu compter sur des supers équipiers qui m'ont quand même ramené au pied, voilà, je fais quatrième, j'aurais fait sixième, c'était la même chose, mais oui, clairement, j'ai laissé échapper la deuxième place du tour ce jour-là en faisant une très très grosse connerie de gestion d'effort.
Mais c'est comme ça qu'on apprend en faisant des très enfin en tout cas les gens intelligents.
Et bon, ce tour-là, j'ai fait d'autres conneries, hein, attaqué dans la descente vers l'Italie alors que je connaissais pas la descente et que j'avais des boyaux de 19 mm de large.
C'est le jour où tu finis sur le la terrasse
c'est,
là.
C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pinera, enfin, ouais, Pinerolo, enfin voilà, c'est même voilà, mais bon, c'est j'aurais dû. Ça serait à refaire, je ferai toutes les étapes comme j'ai fait celle du Galibier, mais dans l'autre sens, la veille donc, à suivre Evans qui était le favori, le laisser. Mais on ne refait pas l'histoire, voilà.
Une dernière question, après je te laisse tranquille. Elle est complètement con cette question, mais je l'aime bien. Edgar, qui nous dit bientôt ministre des Sports. Ministre des Sports, Thomas Beuclair. Ça tourne beaucoup.
J'ai été sollicité par le maire de ma commune pour entrer au conseil ou d'être sur la liste. J'ai poliment refusé, c'est un domaine où vous ne m'apercevrez jamais, ou alors c'est que vraiment on m'a changé. Bon, de toute façon, je pense pas qu'il veuille de moi. Je crois que j'ai une trop grande gueule pour ce genre de truc.
Ouais, il faut éviter, ça peut déranger. ça peut déranger. Mais c'est bien, tu dis tout. Et puis, surtout, moi, on l'a déjà parlé, mais t'as complètement changé. Je trouve que tu gueules moins que ce que tu gueulais le jour où t'as arrêté, le jour où t'as arrêté d'être coureur. Il y a un truc qui est parti, une espèce de pression.
Ouais, mais c'est des choses. Enfin, je regarde pas, ça sera à refaire, je referai pareil. Parce que, en tout cas, pour mon cas, je parle que pour moi, je pouvais pas être. Et puis. Beaucoup disaient que j'étais con. Alors c'est vrai que des fois j'étais mal luné. C'est vrai que des fois je disais pas bonjour. Mais
moi j'ai jamais pris ça comme ça. J'ai senti ça
j'étais
comme
quand même.
C'est une protection.
Quand même, protection. J'avais un peu de notoriété, donc j'étais quand même très sollicité, vraiment. Et puis les gens quand on est un peu connu, ils attendent toujours que la personne connue dise bonjour. Mais à un moment, moi si je veux faire ma course de vélo, être concentré, et puis j'étais pas le plus fort, quoi. Donc fallait que je. Et puis j'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais faire. Donc j'étais des fois vraiment dans mon truc. J'ai pu être désagréable, mais j'avais tellement envie de bien faire. J'avais tellement les dents qui rayaient le parquet que voilà. Après, oui, une fois que la compétition s'arrête, on s'apaise un petit peu. Mais je regrette pas. Ça m'a permis de. Ah, c'était ma façon de faire du vélo.
Alors attends, je suis en train de vérifier parce qu'on vient de m'envoyer un petit truc. Là, il y a une petite nouvelle quand même importante qui serait tombée. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Apparemment, Nasser Bouhanni annoncerait sa retraite. Il arrêterait à la fin de la saison. Nasser Bouhanni qui est dans l'équipe Arkéa-Samsic. On sait qu'ils ont signé Florian Sénéchal, qu'ils ont signé Arnaud Démare. On sait qu'il est beaucoup tombé. Il y a eu cette chute autour de Turquie. Il y a eu une grosse chute.
Sacré monsieur du sprint. Hein.
Au Yorkshire. Alors bon, je ne sais pas si c'est vrai. Là, on est en direct. On vient de m'envoyer ça. Bouhanni retraite. Il y en a plusieurs qui le disent. Christophe. Bah, je vais demander ta réaction, là, on est en direct. C'est quand même... Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Nasser, il allait retrouver une équipe.
Ah, je ne suis pas sûr que ce soit le problème de retrouver une équipe. Hein. Nasser Bouhanni, bon, moi, je ne sais plus combien de victoires il a, mais ça a été...
C'est officiel. Il vient de l'annoncer sur Instagram. On est en direct, il est 19h21.
Il peut être fier de sa carrière, de ses nombreuses victoires. Il a eu des moments difficiles et cette année. C'était juste pas possible, le nombre de chutes, quoi. On verra quelles sont les raisons pour qu'il mette un terme à sa carrière, mais il peut être très fier de ce qu'il a accompli. En tout cas, c'est un sacré bonhomme pour lequel j'ai beaucoup d'estime en tant que coureur.
Ouais, et Nasser, il n'a pas forcément l'image dans les médias de ce qu'il est en réalité.
Non, il est. C'est
un mec très droit, super bien élevé. Moi, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Nasser.
Ça, c'est un coureur que j'aurais aimé manager, ouais.
Ah bien c'est confirmé, hein. Donc on vient de l'apprendre, Nasser Bouhanni vient d'annoncer qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison, c'est la petite nouvelle comme ça, un grand merci Thomas, plein de bisous, merde pour la suite, et puis on se verra peut-être, je sais pas moi, retour du 20 octobre, tu seras peut-être à la présentation du Tour.
Normalement, chaque année j'y suis, et là, je vais devoir me faire porter pâle puisque ça tombe pendant les vacances scolaires de mes trois loulous et je les emmène chez ma mère en Martinique.
Ah, donc, tu fais bien.
Voilà, mais je suivrai ça, bien entendu.
Bon, bah écoute.
Tu me raconteras, Guillaume.
Je te raconterai. On y est chaque année. C'est le moment où on se retrouve. On a un peu de temps pour parler. Un grand merci à Thomas Voeckler, lundi dernier numéro de la saison. Avec Cédrine Kerbol, championne de France du chrono, meilleure jeune du dernier Tour de France et championne d'Europe du relais mixte.
Du relais mixte.
Salut à tous.
Salut tout le monde. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.